Chapitre 25. Ike. 72 heures après avoir remis le nourrisson à l'officier de la JTF à Strasbourg, Ike Ronson arriva dans l'Ohio. Il avait rempli un rapport de mission auprès du jeune homme, puis dormit 4 heures avant de partir au matin. Il avait demandé si quelqu'un pouvait le déposer dans le Michigan, mais s'était vu répondre que tout le détachement resterait ici tant que l'affaire du pont ne serait pas définitivement résolue. L'officier n'en savait pas plus. « Le mieux que je puisse faire, c'est vous déposer sur la route de Bloomsburg, » lui avait-il dit. « Un de nos camions doit y récupérer un chargement. »
« Ça me va, » avait répondu Ike. « Au fait, qu'est-ce que vous avez fait du bébé ?»«
On cherche quelqu'un en ville qui pourrait s'occuper de lui. Enfin, d'elle. C'est une petite fille. Beaucoup de gens ont perdu des enfants à cause du virus. » Je suis sûr que quelqu'un sera heureux de la recueillir. »
Ike se sentait donc un peu mieux en grimpant dans le camion qui partait vers l'ouest, via des ponts qu'il avait sauvés de la destruction. À 8 heures, il s'éloignait de Bloomsburg à pied. Strasbourg, Bloomsburg, Pittsburgh. Apparemment, en Pennsylvanie, les gens s'étaient sentis obligés de rajouter Burg à chaque nom de ville. Il resta sur l'I-80 pour passer les Appalaches, ou bien les Poconos, il n'était pas très fort en géographie. En revanche, il savait où se trouvait le Michigan. Aussi reprit-il sa route. Quand le soleil se fut couché et qu'il dut trouver où se terrer pour dormir, il avait déjà parcouru près de 65 kilomètres. Il se trouvait aux abords d'une commune du nom de McKayville et n'avait pas vu plus d'une dizaine de personnes depuis qu'il était descendu du camion, le matin même. Il était décidément bien loin de New York. Là-bas, à cette heure-ci, il aurait certainement été en mission pour tenter d'endiguer le chaos et la violence qui éclataient dès que la division se détournait d'un endroit pour s'occuper d'un autre. Un phénomène en partie dû au traumatisme collectif provoqué par le fait d'habiter là où le virus avait été libéré, mais également au blocus qui avait fait péter les plombs à des gens déjà à bout de nerfs. Sans oublier le fait que, une fois débarrassé des contraintes de la loi et de la civilisation, ou même de toute forme d'autorité supérieure, certaines personnes se changeaient simplement en barbares. C'était la raison pour laquelle il avait prêté attention au discours de Mantis lorsqu'elle l'avait contacté pour la première fois par un intermédiaire, environ 6 semaines plus tôt. C'était la porte-parole d'une nouvelle puissance émergente qui rassemblait ses forces près de New York. Une organisation qui prenait la juste mesure des dégâts provoqués par ce chaos et qui avait compris que ni le gouvernement actuel ni la JTF n'étaient à la hauteur pour ramener l'ordre et protéger le peuple. Elle voulait emprunter une autre voie. Ce serait plus difficile, du moins au début, mais s'il acceptait de les rejoindre, Ike ferait partie d'une nouvelle Amérique, une Amérique plus forte. Qu'en pensait-il ? Le virus lui avait pris sa compagne et l'un de ses enfants. Ses 2 autres petits et son ex-femme avaient été assassinés début janvier par un groupe d'incendiaires fanatiques se faisant appeler les nettoyeurs. La JTF n'avait pas pu les protéger, la division non plus. Alors oui, il était prêt à rejoindre une organisation plus efficace. 6 semaines plus tard, son avis était resté le même, mais il commençait à devenir nerveux. Il ignorait toujours qui dirigeait ce groupe et quels étaient leurs plans. Il croyait en leurs objectifs, d'où sa participation. Mais pour lui, il était grand temps qu'on lui en dise plus sur leur nature et sur le rôle qu'on lui réservait. Il avait tourné le dos à la division pour eux, ce qui lui valait maintenant d'avoir la mort de plusieurs civils sur la conscience. Il lui devait au moins la vérité. Mantis voyait les choses différemment. Comme il le comprit en l'appelant le lendemain de son arrivée à McKayville, presque exactement 48 heures après leur dernier contact à Manhattan.
Mantis, ici Sentinelle.
Ici Mantis. Quel est votre statut, Sentinelle? Il lui indiqua où il se trouvait et lui parla du détour qu'il avait dû effectuer pour protéger sa couverture vis-à-vis de la division. Vous avez sûrement bien fait, Sentinelle, répondit-elle. Mais plus de détours. Votre unique mission est désormais de retrouver
et d'aider April Keller. Menez-la à bien et nous vous donnerons de plus grandes responsabilités.
Bien compris, Mantis. Des nouvelles quant à sa position?
Une de nos sources l'aurait aperçue au nord-ouest de l'État de New York, à Syracuse. Mais la fiabilité de l'information est douteuse. Nous tentons de l'authentifier.
Compris. Et pour ce qui est de son objectif?
Nous avons notre idée sur le sujet. Mais rien n'est encore sûr. Il est préférable que vous l'abordiez sans rien savoir et qu'elle vous donne des explications elle-même.
Ike n'aimait pas cette perspective, mais il ne pouvait rien y faire.
Compris, Mantis. Autre chose?
Ce sera tout, Sentinelle. Au rapport dans 48 heures.
La transmission coupa. Franchement agacé, il mit une minute à se calmer. Mantis lui cachait encore délibérément des choses. Ce n'était pas qu'une mesure de sécurité classique. En règle générale, ce genre de disposition n'impliquait pas qu'ils doivent partir à la pêche aux renseignements sans avoir la moindre idée de ce qu'il était censé rechercher. C'était un test. Mantis et sa hiérarchie secrète utilisaient cette mission pour éprouver la solidité de sa dévotion à la cause.
Très bien, se dit-il. Ce n'était pas la première fois qu'il devait faire ses preuves.
Il chargea son sac et se mit en marche. Si April Keller était encore dans le nord-ouest de l'État de New York, il la devançait, à moins qu'elle n'ait trouvé un moyen de transport plus rapide. Mais dans tous les cas, vu sa position, elle devrait forcément passer par Buffalo avant de suivre la rive sud du lac Erie. Ike hésitait à bifurquer vers le nord pour arriver plus vite près du lac et essayer de la suivre à ce moment-là.
Risqué, se dit-il, car il n'avait aucune idée de sa vitesse.
Le plus sûr pour lui était d'aller à Cleveland aussi rapidement que possible, d'essayer de tirer des informations de la JTF et des agents de la division présents dans la zone, à supposer que sa couverture tienne toujours, puis de rejoindre Ann Arbor via Toledo. Peut-être pourrait-il la retrouver sur le chemin. Mais en tout cas, il lui fallait au moins arriver là-bas quelques jours avant elle, pour faire savoir que la division recherchait une femme rousse. Tout cela viendrait à changer si Mantis, ou la JTF, lui fournissait de meilleures informations. Mais Ike savait qu'il devait élaborer un plan en se basant uniquement sur son intuition. Et c'était là le meilleur qu'il avait trouvé, étant donné les circonstances.
Le temps lui était compté. Aussi devait-il se dépêcher.
Il eut une idée. Il traversa la route pour atteindre un grand entrepôt qui appartenait, semble-t-il, à une compagnie construisant des cabanons et autres structures préfabriquées. La porte était fermée, mais il entra sans problème. Dans le bureau, il trouva un annuaire. Heureusement que certaines personnes étaient encore assez réfractaires au changement pour s'en munir, se dit-il. Sinon, il lui aurait fallu des heures pour localiser le magasin de vélo le plus proche, qui se trouvait à environ 8 kilomètres au nord, dans une ville du nom de Lock Haven. Les membres de la division devaient entretenir leur forme physique en permanence, et Ike avait passé des milliers d'heures à vélo au cours des 10 dernières années. Le sien était certainement toujours accroché au mur de son appartement de Greenpoint. Il avait effectué d'innombrables randonnées sur route, dont une de plus de 300 kilomètres en Floride. Là-bas, le terrain était si plat qu'il avait eu la sensation de pouvoir rouler à jamais. Mais à présent, il était en plein milieu de la Pennsylvanie. Pour quitter Lock Haven, il dut suivre une route qui grimpait progressivement sur les 30 premiers kilomètres avant de se faire particulièrement raide sur les 10 ou 15 qui suivaient. Ronson se reposa sur la crête, dans une aire panoramique. Le vélo qu'il avait choisi lui plaisait. Il était même meilleur que celui qu'il possédait avant le Black Friday. Cadre en fibre de carbone, meilleur composant, pneus course. Et pédaler lui faisait du bien, même si ses jambes étaient en feu une fois en haut de la côte. Son corps était adapté à la survie à présent, plus au cyclisme. Mais cela ne le dérangeait pas. Il s'y habituerait. Il réenfourcha sa bicyclette et reprit sa route. À la fin de la journée, après de nouvelles montées éreintantes, il arriva à Clearfield,
le derrière en purée. Il prit la sortie en roue libre et arriva au milieu d'une forêt de fast-food et d'épiceries. Il examina une carte routière sur le tourniquet d'un petit commerce et apprit qu'il se trouvait à un peu moins de 500 kilomètres de Toledo. Il parcourut le tiers de cette distance le lendemain et parvint aux abords de Youngstown, dans l'Ohio. Au matin, il contacterait de nouveau Mantis. Le cercle de sa montre était toujours orange. Sa couverture tenait le coup. L'Isaac était resté assez silencieux ces deux derniers jours, vu qu'il était hors de portée opérationnelle des grandes villes où étaient déployés la plupart des agents de la division. Mais à présent, il se trouvait dans une grande zone urbaine, délimitée par Youngstown, Canton et Cleveland. En jugé par les discussions de ses collègues à proximité, les villes au nord du Midwest s'en sortaient un peu mieux que New York, en grande partie parce que leurs habitants trouvaient plus facilement de quoi manger. Lorsque le virus était arrivé jusqu'ici, l'inutilité des grands blocus n'était déjà plus un secret. Les aéroports, routes et gares de New York s'étaient déjà très bien chargés de le répandre avant l'apparition du moindre symptôme. Néanmoins, les agents du coin avaient du travail. Ike se dit qu'il finirait tôt ou tard par réaliser sa présence et qu'il pourrait bien recevoir une demande de soutien de leur part, ce qui compliquerait les choses. Mantis lui avait donné l'ordre de ne plus dévier de sa mission, mais « Arrête », se dit-il. « Tu verras le moment venu. En attendant, focalise-toi sur ton objectif, qui consistait, finalement, à faire naître une nouvelle Amérique, plus forte. » Mantis le lui avait expliqué. Cela impliquerait de faire des choix difficiles, surtout au début. Mais Ronson était convaincu qu'il prenait part à une grande cause, l'avènement d'un pouvoir ferme qui saurait sortir les États-Unis des ténèbres de l'épidémie et les mener vers des lendemains lumineux.